Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter l'histoire stupéfiante de Djamila Belkacem, l'une des plus grandes tordues de l'histoire du crime au XXe siècle. Il est très rare que je vous donne d'entrée le nom de l'assassin, mais vous verrez, au fond, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est elle. C'est sa perversité, c'est sa mythomanie, c'est sa capacité à manipuler les gens. Dans l'histoire du crime, c'est un personnage absolument à part. J'ai écrit cette histoire avec Hawkins, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 26 février 1999, en fin d'après-midi, les pompiers de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, déboulent dans un immeuble du centre-ville, rue Jarin. Une femme les a appelés, inquiète que Jacques, son compagnon, ne réponde pas à ses appels. Elle les a suppliés d'aller chez lui. Et les voilà donc devant la porte. Tu sens l'odeur ? Ça sent la mort ici, non ? Je comprends qu'elle soit inquiète, cette dame. Allez, on y va. Les pompiers enfoncent la porte. Pouah ! Maintenant que la porte est ouverte, c'est pire. Une odeur puissante de charogne mêlée à une forte odeur de cramé. Ils ont l'habitude de la mort, les pompiers. Mais là, c'est insupportable. L'appartement est plongé dans le noir. Ils avancent à la lumière de leur lampe. Ils passent le couloir, le salon. La chambre doit être là, la porte entrouverte là. Ils pénètrent dans la chambre. Le corps est là, par terre, complètement brûlé, allongé sur ce qui devait être un matelas et dont il ne reste que les ressorts. Autour, les murs et le sol sont couverts d'une épaisse suie noire. Il s'agit bien sûr de Jacques. Jacques Brunet, 50 ans. Il était vétérinaire à Bourg-en-Bresse. Et il était le compagnon de la dame qui a appelé les pompiers, Myriam, qui est là d'ailleurs, dehors, à attendre. Il est mort, madame. Et sa chambre a été totalement brûlée. Et son corps aussi.
Je me doutais que ça arriverait un jour. Le soir, Jacques avait l'habitude de lire à la lumière d'une bougie. Il a dû s'endormir et la bougie a mis le feu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Ce serait donc un accident. Un accident à la con. Et pourtant, il y avait l'électricité chez lui. Pourquoi diable utilisait-il une bougie, comme autrefois, alors qu'on est en 1999 ? Les policiers arrivent sur place, en quête de routine, puisque c'est un accident. Bon, ben la bougie a dû mettre le feu à la literie, qui a dégagé une forte fumée, il a dû être intoxiqué, il est mort sans doute dans son sommeil. Et puisque c'est un accident, pas d'autopsie. Les obsèques ont lieu quelques jours plus tard, on pleure Jacques Brunet, mort, la faute a pas de chance. La suite est étonnante, parce que pour une fois, ça n'est pas l'enquête de police qui fait avancer les choses. L'appartement de Jacques appartient à son ex-femme. Et le lendemain de la découverte du corps, naturellement, elle appelle sa compagnie d'assurance.
On va vous envoyer un expert, hein, madame, pour évaluer les dégâts en vue de votre indemnisation, hein, d'accord ?
Et donc, l'expert vient sur place. Un expert en incendie. L'avantage des experts en assurance, c'est que comme leur compagnie cherche à payer le minimum, en général, ils grattent, au cas où l'incendie ne serait pas accidentel. Et voilà notre expert sur place, dans la chambre incendiée. Bon, on est dans une pièce confinée. Bon, c'est absolument normal que l'incendie se soit éteint tout seul, hein. Bon, il s'est éteint par manque d'oxygène, mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Le cadavre était calciné, hein, c'est ça ?
Ouais. Au point qu'il n'a pas pu être montré à ses proches. C'est vous dire à quel point il était abîmé.
C'est pas normal, ça. Le cadavre n'aurait pas dû brûler comme ça. C'est-à-dire plus que la chambre, plus que les murs, plus que les meubles. Mais il y a un truc qui cloche. Vous pensez à quoi? Je me dis que le cadavre a pu être arrosé avec ce qu'on appelle un accélérant, alcool à brûler ou essence. Et d'ailleurs, venez là. Regardez là. Vous voyez au niveau des plaintes, là? Vous voyez ces traces, là? Ça, c'est très caractéristique d'un départ de feu. Et donc, le feu n'a pas pris sur le matelas. Et puis, regardez là-bas, Yann. Il y a une autre trace. Et puis, il y en a encore une autre là-bas. Et là, il y en a une quatrième. Et puis, il y a autre chose. Sur le mur, là, vous voyez les traces blanches? Ça, ça veut dire que la température est montée à près de 1000 degrés. Et ça, dans un incendie accidentel, c'est strictement impossible. Il faut un accélérant pour arriver à une telle température. C'est pas un incendie accidentel. On a mis le feu volontairement. Et si ça n'est pas un accident, alors c'est un meurtre. Ou alors éventuellement un suicide. Un type qui met volontairement le feu à sa piole pour en finir. L'expert réalise des prélèvements qu'il envoie à un laboratoire.
Bien, j'ai les résultats des analyses. Alors sur les éléments que vous nous avez transmis, c'est-à-dire les morceaux de plinthe et les restes du matelas, on a trouvé des traces d'essence. Vous aviez raison.
La patte de l'expert. Cela dit, depuis quelques jours, la famille de Jacques aussi a des doutes. Et d'ailleurs, elle vient de porter plainte. On a regardé ses comptes en banque. Bon, c'est quand même quelqu'un qui gagnait bien sa vie, Jacques. Un laboratoire vétérinaire, vous pensez? Eh bien, ses comptes ont été complètement vidés. Il n'y a plus un centime. Et qu'est-ce que vous en concluez? Ben, il y a quand même une hypothèse où le cadavre, celui qu'on a enterré, ben, c'est pas lui, quoi. C'est-à-dire que, bon, on peut imaginer qu'il aurait mis en scène son suicide et qu'il se serait barré à l'autre bout du monde avec son argent.
Mouais, d'accord. Mais ça, c'est une version optimiste. L'hypothèse qui tient le plus, c'est celle du meurtre. Si on avait fait une autopsie, on aurait des idées plus claires. Sauf qu'à cette heure-ci, Jacques, il est déjà 6 pieds sous terre. Un juge d'instruction vient d'être désigné. Et il prend une décision radicale.
Bon, il va falloir procéder à l'exhumation du corps de ce monsieur. Je préviens la famille, bien entendu. On va commencer par réaliser des prélèvements génétiques pour confirmer ou pour affirmer qu'il s'agit bien de Brunet Jacques. Et puis, éventuellement, on réalise une autopsie.
L'autopsie, justement, allons y assister.
Bon, je n'ai trouvé aucune trace de couteau et pas non plus d'orifice d'entrée de balle qui indiquerait qu'on a eu recours à une arme à feu. C'est un premier point. En revanche, approchez-vous. Regardez quand j'ouvre la bouche. Là. Vous voyez, c'est tout rose. J'ai extrait la trachée et le système pulmonaire, idem. Ça veut dire que le monsieur n'a pas respiré au moment d'émanation de combustion. Et donc il était déjà mort, quand on a mis le feu. Et mort de quoi? Écoutez, j'ai fait des prélèvements de sang, de la bile, du contenu de son estomac. On devrait vite avoir la réponse.
Et la réponse, la voilà. Le labo a trouvé dans le sang de Jacques des traces de benzodiazépine. Vous avez déjà entendu parler du Temesta, du Tranxène, du Lexomil, du Stilnox? C'est de ça dont on parle. Les chimistes disent que, vu la quantité stockée dans les tissus, Jacques Brunet en prenait depuis au moins 4 mois. C'est intéressant, mais ça n'est pas avec ça qu'on tue quelqu'un. Sauf que dans son sang, il n'y a pas que ça.
On a aussi trouvé d'importantes quantités de doxépin. En quantité toxique, pour tout vous dire, c'est-à-dire en quantité susceptible d'avoir plongé la victime dans un coma mortel.
Eh ben la voilà, l'arme du crime. Enfin, du crime. On ne peut toujours pas écarter un suicide. En attendant, on vient de recevoir le résultat des analyses génétiques. Le cadavre est bien celui de Jacques Brunet. Il n'est donc pas parti se dorer la pilule à l'autre bout du monde. Un mois après la découverte du corps, l'ex-femme de Jacques Brunet, dont il est divorcé, reçoit une drôle de lettre d'une femme. Cette femme prétend être la maîtresse de Jacques, mais pas la maîtresse officielle, qui est Myriam, qui a appelé les pompiers. Une autre, qui ne veut pas dire son nom, et qui semble n'avoir qu'un seul souci, dédouaner Myriam, justement, sa rivale. C'est très étrange. Je vous la lis, cette lettre. « Je vous écris pour vous demander de ne pas accuser Myriam au sujet de l'argent de Jacques. Elle est parfaitement innocente. Je vous conjure, madame, de ne pas embêter cette fille. Je sais que vous ne l'aimez pas, mais pitié pour cette innocente. » Franchement, c'est à se demander si ça n'est pas Myriam elle-même qui a écrit cette lettre. Non ? Ah ben si. Et ça nous ouvre une piste, ça. Myriam, la maîtresse, qui empoisonne son amant. Et cette hypothèse est confortée par le témoignage de l'expert en incendie. Quand je lui ai dit au téléphone que j'avais trouvé des traces de sang, honnêtement, ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Elle a essayé de me faire changer d'avis en me disant « ça vient du matelas ou ça vient d'une couverture qu'il y avait dessus ». Je lui ai dit non, c'est bien de l'essence. Et elle s'entêtait. Et elle est revenue à son histoire de bougie. Et moi, franchement, j'ai eu l'impression que d'une certaine manière, la vérité de mon expertise l'a dérangée, quoi. D'autant que les policiers ont fait le tour des proches. Cette histoire de bougie, le soir, pour lire, personne n'en a jamais entendu parler. Alors, cette Myriam, maîtresse du mort, Jacques, s'appelle, d'après ce qu'elle a dit aux policiers, Myriam Maillard. Et elle a laissé une adresse. Alors les policiers vont chez elle, à Villefranche-sur-Saône. Dans le hall de son immeuble, ils cherchent son nom sur la boîte aux lettres. Maillard, là on a un René Maillard ici. Là on a une Jamila Maillard. Mais il n'y a pas de Myriam Maillard. Et pour cause, la greluche qui a appelé les pompiers ne s'appelle pas du tout Myriam Maillard. Son nom est Jamila Belkacem. Elle a menti depuis le début. Et l'argent de Jacques, volatilisé de ses comptes en banque, eh bien on le retrouve sur le compte de cette Jamila, alias Myriam. À ce stade, franchement, il est fort probable que ce soit elle qui l'ait fait passer de vie à trépas. Ce sont les gendarmes désormais qui mènent l'enquête. Et les voilà donc face à Jamila Belkacem, alias Myriam. Pour l'anecdote, elle s'est collée des lentilles bleues, alors qu'elle a les yeux noirs. La classe à Dallas. Bien madame, en observant vos comptes en banque respectifs, on s'aperçoit que sur une période de 2 ans, environ 500 000 francs sont passés du compte de Monsieur Brunet pour apparaître sur le vôtre. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est Jacques. Il comptait divorcer de sa femme. Et pour qu'une partie de son argent rentre pas dans la liquidation, il l'avait mis à l'abri sur mon compte. Très bien. Mais alors pourquoi les chèques ont-ils été signés de votre main? Parce qu'on a vérifié, ils ont été signés de votre main. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas signé les chèques lui-même? C'est-à-dire, on s'aimait tellement, Jacques et moi, que c'est moi qui signais les chèques et lui me tenait la main. Et il est passé où cet argent, madame? Parce que il n'est plus sur votre compte en banque. J'ai fait à la suite plusieurs retraits en liquide pour lui rendre l'argent, quoi. Il voulait s'acheter un bateau avec. Des salades. Jamila Belkacem sert aux gendarmes des salades. N'empêche qu'à la fin de sa garde à vue, elle est mise en examen pour assassinat et écrouée. Et là, les gendarmes débutent une enquête qui va tous les jours les faire tomber de l'armoire. Car ils vont découvrir que Jamila Belkacem a tissé autour d'elle depuis des années une toile de mensonges. Car elle n'a pas menti que sur son nom. Elle a dit aussi à tout le monde, par exemple, qu'elle était infirmière.
Myriam, infirmière ? Non, pas du tout, elle était aide-soignante.
Elle a dit aussi qu'elle était née à Lisbonne.
Bon, elle est née au Maroc, Myriam.
Elle racontait encore qu'elle avait un cancer des os.
Oh, mais oui, elle disait qu'elle se faisait soigner à Boston, aux États-Unis. C'est faux ?
Ben oui, c'est faux. Archi faux. Elle n'a pas de cancer. Eh ben moi, elle m'a dit qu'elle avait un brevet de pilote d'avion, figurez-vous. Et moi, je vous déconseille de monter dans un avion avec elle. C'est une mytho, Jamila. Une mytho, mais pas que. Car une partie de ses mensonges servait à dissimuler cette double vie qu'elle avait installée. Car elle vit toujours avec le mari dont elle a divorcé, René Maillard, et avec leurs 4 enfants, car ils en ont 4. Alors pour justifier la présence de Jacques dans le décor, elle disait à René
« Oh mais Jacques, c'est un collègue de l'hôpital. Il a une tumeur au cerveau, René. Il en a plus pour très longtemps. C'est pour ça que je m'occupe de lui. »
Et à Jacques, pour justifier qu'elle vivait toujours chez René, elle mentait aussi.
« Ah, mais c'est mon demi-frère chez qui j'habite, Jacques. Il s'appelle Georges. »
Dans cette vie de briques et de brocs qu'elle s'était construite, elle mentait à tout le monde. Une dernière pour la route. Vous savez ce qu'elle racontait au pouvre Jacques ?
« J'ai de super pouvoirs, chérie. Je peux lire dans les pensées. Véridique, hein ? Je peux aussi déplacer des objets sans les toucher. Je peux même traverser les murs. »
Vous, on vous dit un truc pareil. Vous voyez tout de suite quel mot. Sauf que vous, on ne vous a pas collé des benzodiazépines en quasi-perfusion. Alors que lui, oui, elle le bourrait de médoc. Au point qu'il ne savait plus distinguer le vrai du faux. Donc, les gendarmes savent maintenant que c'est une grosse mytho. Mais on ne peut pas juger Jamila Belkacem parce que c'est une menteuse. Il faut donc savoir quand, comment et pourquoi elle aurait tué Jacques. Quand d'abord ? Probablement la semaine qui précède la découverte du corps, c'est-à-dire le 19 février, juste avant qu'elle ne parte 4 jours en vacances en Angleterre avec ses enfants. Comment ? Eh ben en l'empoisonnant avec du doxépin. Et pourquoi ? Son mobile, autrement dit. Elle ne nous le dira pas puisqu'elle nie. Mais on a une piste. Jacques était un passionné de voile. Il avait économisé pour s'acheter un catamaran. Et il l'avait choisi. Il était sur le point de virer l'argent au vendeur. Elle le tue juste avant pour siphonner in extremis son compte en banque. Mobile donc, le pognon. Classique. Tout le temps de l'instruction, Jamila Belkacem maintient qu'elle est innocente. Elle fait même une grève de la faim en prison. Allons tout de suite assister à son procès, parce qu'après, il y a un gros rebondissement. Le procès s'ouvre le 1er avril 2002 devant les assises de l'Ain. Et dès le premier jour, rebondissement.
C'est mon ex-mari, René, qui a tué Jacques. Par jalousie.
René est assis sur un banc dans la salle. Il lève les yeux au plafond, manifestement blasé de ses délires. On fait ensuite la liste des éléments à charge.
On a retrouvé chez vous, madame, dans un ordinateur appartenant à Monsieur Brunet et que vous utilisiez aussi, de fausses ordonnances de neuroleptiques et d'antidépresseurs qui correspondent parfaitement aux molécules trouvées dans son sang. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Mais ça peut pas être moi. Je sais même pas me servir d'un ordinateur. J'ai appris en prison. Je peux même vous fournir un papier de mon professeur d'informatique, hein, si vous voulez.
Mais toute une série de témoins viennent dire qu'elle savait très bien se servir d'un ordinateur. Et René, alors, qu'est-ce qu'il en dit ?
Ah ben, je l'ai vu, moi. Je l'ai vu fabriquer des fausses ordonnances. Et elle disait, ben, c'était pour Jacques, qu'il était en panne de médicaments. Bon, moi, je l'ai cru, hein.
Mais le coup fatal est porté par un expert en informatique, justement. Il a ausculté le disque dur de l'ordinateur dont elle fait semblant de ne pas savoir se servir.
Alors, dans les fichiers effacés, j'ai trouvé la trace d'une lettre dans laquelle la mise en cause implore l'ex-épouse de M. Brunet de ne pas soupçonner Mme Maillard Myriam.
Autrement dit, la fameuse lettre qui a mis les gendarmes sur la piste de Jamila.
Et le fichier correspondant à cette lettre a été créé le 25 février, précisément à 14h16.
Le 25 ? Mais le 25, elle n'était pas censée savoir que Jacques était mort, puisqu'on a découvert son corps le lendemain, le 26. Ça, c'est le coup de grâce. Elle peut hurler qu'elle est innocente. Personne ne peut plus la croire. Et puis un certain Georges vient à la barre. Il a été le compagnon de Jamila il y a 18 ans.
Oh ben déjà moi, elle m'a escroqué hein, à l'époque. Elle m'a tiré des chèques en imitant ma signature. Et quand je lui ai dit, mais ça va pas Jamila, eh ben après, au dîner, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis endormi. Et puis quand je me suis réveillé, je sais pas moi, vers 2h du matin, eh ben, elle était là, à côté de moi. Et vous savez ce qu'elle avait à la main ? Elle avait une casserole d'huile bouillante. Ah, elle était à deux doigts de m'ébouillanter, hein ?
Il a eu très chaud, celui-là. Enfin, quel est le diagnostic de l'expert psychologue ?
Madame Belkacem a un narcissisme qui est poussé à l'extrême. Une mythomanie qui fait du mensonge, je dirais, une substance quotidienne, et où l'image de soi est en quelque sorte une question de survie.
L'avocat général demande perpète, les jurés se retirent, et leur verdict est très étonnant.
En conséquence, la cour vous condamne à une peine de 20 années de réclusion criminelle.
20 ans ? Elle s'en sort très bien, c'est miraculeux. Sauf que l'idiote fait appel. T'aurais pas dû, Jamila. T'aurais pas dû. Le procès en appel a lieu un an plus tard à Lyon. Et il commence par un coup de théâtre.
Bien, je souhaite informer les parties que je viens de recevoir à l'instant. Un fax de M. René Maillard, ex-mari de l'accusé. Je vais vous le lire. Monsieur le Président, c'est bien moi qui ai assassiné Jacques Brunet le 23 février 1999. Je l'ai forcé, sous la menace d'une arme, à boire du whisky avec des cachets. Après l'avoir couché, j'ai allumé une bougie de façon à ce qu'elle se renverse une fois que je serai sorti. Je ne supporte pas l'idée de la prison. Je préfère me suicider libre que derrière les barreaux. Et c'est signé René Maillard.
Le mari de Jamila Belkacem s'accuse du meurtre. Et elle, dans le box, évidemment, elle biche. Elle est innocente, elle l'a toujours dit. En attendant, le procès est ajourné. Le président demande qu'on se lance à la recherche de René Maillard. Et on le retrouve chez lui, bavant dans son lit. Il est emmené à l'hôpital dans le coma. Et quand il sort du coltard,
« Monsieur, nous avons reçu une lettre de votre part annonçant que vous alliez vous suicider. »«
Me suicider, moi ? Moi, jamais de la vie, je m'en souviendrai, non ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier, monsieur ?»«
Bah, hier, j'étais
avec mon père chez le notaire. Après, je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai dîné. Et, ma fille m'avait préparé gentiment un flan au chocolat. J'en ai mangé, mais juste un peu, parce que il y avait comme un goût dans le flan.
Un goût de benzodiazépine, peut-être.
On lui fait une prise de sang.
La réponse est oui. Sacré Djamila. Elle a remis ça. Sauf que là, elle est en prison. Les gendarmes interrogent ses enfants, et notamment sa fille cadette de 17 ans.
Ben, je reconnais que c'est moi qui ai empoisonné mon père, mais c'est ma mère qui me l'a demandé au parloir. C'est elle aussi qui m'a donné les médicaments. Alors je les ai mis dans le flan, eh ben, que j'ai donné à manger à mon papa.
Oh, la diablesse! Elle a manipulé sa fille pour qu'elle tue son père. Et c'est elle qui a dicté à sa fille le texte du fax. Mais quelle diablesse! Quelle diablesse! Sa fille est immédiatement mise en examen pour tentative d'assassinat. Et le procès de Djamila peut reprendre. Et soyons lucides, pour elle, les carottes sont cuites. Difficile de jouer l'innocente, alors qu'il a été démontré qu'elle a aussi tenté d'empoisonner son mari René. Mais rassurez-vous, elle maintient sa version.
Je le redis, j'ai jamais tué Jacques Brunet.
Elle est gonflée. Mais quand sa fille vient à la barre, elle prend un bon gros coup de bambou derrière la tête.
J'ai tenté d'assassiner mon père sur les ordres de ma mère. Elle m'a manipulé. Elle me disait que c'était lui le coupable.
Le coup est fatal. Elle ne peut plus mentir là-dessus. Elle l'a compris.
Bon, je reconnais que c'est moi qui ai demandé à ma fille d'empoisonner mon ex-mari René Maillard.
D'accord. Mais pourquoi ?
J'avais pas le choix, voyez-vous, parce que comme c'est lui qui a tué Jacques, ben moi, j'avais pas envie de payer pour lui, quoi. C'était lui ou moi.
Elle a avoué pour René, mais pour Jacques, pas question de lâcher. Sauf que là, il n'y a plus à barguigner. Personne ne la croit plus.
Madame, la cour vous condamne à une peine de 30 années d'emprisonnement.
C'est-à-dire 10 ans de plus qu'en première instance. « Je te l'avais dit, Djamila, il ne fallait pas faire appel. D'autant que maintenant, il va falloir te juger avec ta fille pour la tentative d'assassinat sur ton mari René. » Le procès a lieu en février 2006 et à l'issue, elle prend perpète, dont 22 ans de sûreté. Et sa fille qu'elle a manipulée écope elle d'une peine compréhensive de 5 ans, dont 4 en ferme. Et Djamila fait appel. Elle est indécrottable. En appel, elle reprend perpète, dont 22 ans de sûreté. En revanche, sa fille gagne au change. 5 ans, dont 3 ans avec sursis. Elle est libre. Et depuis, elle s'attache à recoller les morceaux avec son papa.
Cette histoire, Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.